Chapitre 3e. Je n'avais demandé d'appui à personne de ma famille, pour la raison bien simple que je ne voulais pas aller là où la police prévoyait que j'irais. Mais je commençais à comprendre qu'une telle prudence était exagérée. Sans aller chez mon père, je pouvais habiter chez celle de mes tantes qui avait épousé un administrateur colonial du nom de Xavier de Mirat et qui vivait seule depuis une dizaine d'années rue Rambuteau. La police ne pouvait connaître ma famille au point de savoir que cette tante existait. Ce serait tout de même plus naturel que de m'imposer au brave Georget ou à Guégan. Les premiers jours que je passais rue Rambuteau me firent un bien immense. Ma tante était une femme très bonne, capable de grand dévouement pour ceux qui entraient à l'improviste dans sa vie, ce qui surprenait ses intimes car ils la croyaient méchante et avare. Le mal qu'elle se donnait pour cacher son avarice était touchant. Aux questions les plus naturelles, elle faisait des réponses incroyables. Je lui demandai un jour, comme elle buvait du café sans m'en offrir, s'il était bon. Elle me répondit qu'elle ne le savait pas. Je la regardai avec étonnement. Elle ajouta alors, avec un tremblement qui trahissait un affolement intérieur, qu'elle était enrhumée, qu'elle n'avait pas de goût. Après tout, j'étais peut-être injuste. Il ne faut pas confondre l'avarice d'une personne qui gagne sa vie avec celle d'une personne qui vit chichement sur un petit avoir. Je l'avais prié d'écrire à mon père et de lui laisser entendre de façon voilée que je voulais le voir. La réponse ne tarda pas. Cette rapidité me réconforta, car si j'étais obligé de quitter ma tante, au moins n'aurais-je pas à revenir chercher cette réponse, car depuis mon évasion, je ne sais pourquoi, c'était un vrai supplice pour moi de retourner dans un endroit ou chez des gens que j'avais quittés. Par toutes sortes d'allusions que j'avais suggérées à ma tante de glisser dans sa lettre, j'avais fait comprendre à mon père qu'il fallait qu'il se tînt sur ses gardes et qu'il n'annonçât surtout à personne ma visite. En arrivant à Versailles, je regrettais ma prudence. Au fond, il est difficile de savoir d'avance s'il faut ou non prévenir les gens. Le fait de prévenir provoque des réactions inattendues. Elles sont quelquefois très dangereuses. En effet, quand j'arrivais au collège où mon père était professeur, je m'aperçus avec effroi que le concierge avait été prévenu. Avant même que je dise mon nom, il avait deviné qui j'étais. Au lieu de me conduire directement dans le bâtiment principal, comme il l'eût fait avec un visiteur ordinaire, il me fit entrer dans le petit pavillon près de la grille où se trouvait sa loge. Puis je l'entendis dire à sa femme d'aller faire un petit tour dans la cour et près des bâtiments principaux pour voir si on n'avait pas remarqué mon arrivée, si rien d'anormal ne se passait. Il ferma la porte à clé. Quelqu'un frappa peu après. J'eus un haut-le-corps. Rien ne m'était plus désagréable que d'être enfermé seul dans un endroit où je n'avais pas le droit de me trouver. Si cette personne qui frappait était le directeur, qu'elle demandât ce que je faisais là, comment il se faisait que nous nous enfermions à clé, etc. Qu'eussais-je répondu ? Heureusement, on n'insista pas. La conduite du concierge continua de me surprendre. Au lieu d'aller prévenir mon père, il prétendit qu'il ne pouvait pas le déranger. J'eus l'impression qu'il prenait cette décision sur lui et qu'il faisait du zèle. Par la fenêtre, j'apercevais le lycée, tout blanc, avec son péristyle, un ancien hôtel Louis XVI modernisé. J'étais frappé qu'il fût si différent de mon souvenir et d'y découvrir la vie avec toutes ses préoccupations quotidiennes là où il n'y avait que ma jeunesse. Je m'assis dans un de ces magnifiques fauteuils comme il y en a dans toutes les loges des établissements publics. À cause de moi, la porte était fermée. À cause de moi, me semblait-il, tous les visiteurs ne sauraient où aller, ni où se renseigner, ni où déposer un paquet, ni où téléphoner. Ils se demanderaient « Mais qu'est-ce qu'il se passe donc ?» On allait sommer le concierge d'ouvrir, je dis bien sommer. Ma présence serait révélée à tous. J'aurais à l'expliquer et j'en serais incapable. Je demandai au concierge d'ouvrir la porte. Il crut que je voulais lui épargner des ennuis. Touché par ma gentillesse, il me répondit que je ne m'inquiète pas, qu'il saurait bien quoi dire si on insistait trop, qu'il tenait avant tout à suivre les recommandations de mon père. Il fallait que personne ne me vît. Enfin, il envoya son petit garçon prévenir mon père. Peu après, on entendit de nouveau frapper. Derrière les rideaux blancs et assez opaques de la porte vitrée, j'apercevais une ombre. « C'est moi, » dit mon père. « Ouvrez vite, » dis-je au concierge. Mon père referma la porte derrière lui. C'était étrange, après tant d'événements, de le voir se cacher pour venir me parler alors que c'eût été à moi de le faire. Je n'avais jamais aimé aller voir mon père là où il avait ses occupations, là où il y avait au-dessus de lui des gens qui pouvaient lui donner des ordres, en dessous d'autres gens qu'il devait surveiller. Cela me gênait. Rien n'est plus pénible que de voir un être que l'on aime, absorbé, craintif, obligé d'obéir et de commander pour que la chaîne dont il est un maillon ne soit pas rompue. En vérité, j'étais victime de ma sensibilité, car tout cela était bien égal à mon père. Il était au contraire très fier de se montrer dans l'exercice de ses fonctions. Dès qu'il me vit, avant toute chose, comme si nous nous étions quittés la veille, il me dit que j'étais arrivé un peu trop tôt, qu'il n'avait pas complètement fini, qu'il allait revenir dans un instant. Cela me fit de la peine qu'une rencontre aussi importante que celle d'un père et de son fils, que la guerre a séparée, pût être repoussée, ne fût-ce qu'un instant, à cause du travail. La femme du concierge dit qu'il allait mieux que je passasse dans la pièce du fond, car on risquait de me voir. Il était difficile de tenir la loge indéfiniment fermée. Elle m'introduisit dans une sorte de souillarde obscure. Son mari, je m'en rendis compte à ce moment, était un de ces serviteurs exemplaires qui se mettent avec toute leur famille au service de leur maître et qui permettent à ces derniers d'empiéter sur leurs droits de mari et de père. J'attendis une heure. Les concierges du lycée avaient repris leurs occupations. À la fin, mon père arriva. Je l'entendis qui demandait où j'étais. J'ouvris la porte. Mon père s'excusa longuement de m'avoir fait attendre. Il m'avait bien dit de ne pas venir avant 11 heures. Il était aussi ému que moi. Il m'expliqua ce qu'il avait à faire, très vite, comme si nous avions à parler de choses beaucoup plus importantes tout de suite après. Mais il recommençait sans cesse les mêmes histoires, sur un ton saccadé, mêlant même les concierges à la conversation. Je sentis qu'il se cachait sous cet air agité, qu'avant même de savoir ce que j'allais dire, il redoutait de m'entendre. Il voulait cependant me montrer que je pouvais me fier à lui, mon père. Il me pria de m'asseoir, mais lui, il demeura debout. Il me dit qu'il préférait me voir le soir, car pendant son travail, il n'avait pas sa tête à lui, que d'ailleurs, à 11h10, il faudrait de toute façon qu'il me quittât. Il ne pouvait me dire à quel point il était heureux d'avoir pu me parler, ne fût-ce qu'un instant, tout de suite. Il penserait à moi. Il ne voulait pas que je m'inquiétasse. Tout s'arrangerait finalement, mais dans cette maison, il eut un regard vers les bâtiments du collège, l'atmosphère était irrespirable. On avait essayé de se débarrasser de lui pour des raisons politiques, mais on n'avait pas pu car depuis 17 ans, il avait donné trop de preuves de son dévouement. Il me conseilla le sang-froid et la patience. Il avait beaucoup de relations, mais naturellement il fallait du temps pour les atteindre, il ne fallait surtout brusquer personne. À 11h10, il montra encore plus de nervosité. Brusquement, il se leva comme si un train devait partir. Nous avions beaucoup de choses à nous dire, mais nous n'avions pas le temps. Le concierge entra à ce moment. Mon père se mit à lui parler avec la même fébrilité qu'à moi, découvrant toute son amitié pour ce concierge et me rappelant cette manie qu'il avait de se faire des amis parmi les petites gens avec lesquels il tramait toutes sortes de complots dont le but final était de rendre service à un malheureux. Nous avions rendez-vous à 4 heures. J'avais dit à mon père que ce serait peut-être un peu tard si je devais trouver un endroit où coucher. Il m'avait répondu de ne pas m'inquiéter, qu'il arrangerait cela. Mais je connaissais mon père. Il était plein de bonne volonté. Malheureusement, des circonstances imprévues l'empêchaient toujours de tenir ses promesses. Après quelques démarches infructueuses, il vous prenait à témoin qu'il ne pouvait plus rien pour vous. Il vous demandait encore de l'aider et si vous en étiez incapable, il se reconnaissait impuissant. Il s'en lamentait. Vous ne pouviez douter de sa sincérité, mais le fait demeurait le même. Puisque tout ce qui était humainement possible de faire avait été tenté, il ne restait plus qu'à s'incliner. Il rentrait chez lui, reprenait sa petite vie tranquille, mais les autres, ceux qui avaient compté sur lui, qui pendant des jours avaient vécu des espoirs qu'il leur avait donnés, que devenait-il? Et si vous insistiez, il avait l'air tellement malheureux de n'être qu'un pauvre petit professeur que vous vous sentiez pris de pitié. J'allais me promener dans les rues de la ville. Je n'avais encore rien mangé. Je n'avais pas de ticket. Et tout ce qu'on achetait était tellement cher qu'en calculant le prix de chaque bouchée, j'étais effrayé au point de ne plus sentir tout à coup le goût de ce que je mangeais. J'aurais pu, peut-être, en observant de quelle façon on procédait dans chaque restaurant, en trouver un où on ne demanda les tickets qu'après, mais j'avais peur d'une histoire. Je me décidai à entrer dans une boulangerie et mendie en quelque sorte un morceau de pain. Justement, le boulanger venait de donner devant moi à une jeune femme du pain sans ticket. Je lui dis que j'étais de passage. Il m'en refusa. La colère m'envahit. Je lui dis qu'il venait d'en donner à une femme qui n'avait pas plus de ticket que moi. Il éleva à son tour la voix. Il ne s'agissait plus de moi. Il commençait déjà à parler du pain comme on parle de la patrie et du devoir. Je me calmai instantanément. C'était en perspective typiquement le genre d'histoire dont j'ai le plus horreur et que je m'efforce toujours d'éviter, ce genre d'histoire qui se produit aux revues militaires lorsque votre voisin vous crie « chapeau » au moment où passe un simple fanion. Je sortis de la boulangerie sans insister, me disant qu'un jour j'aurai ma revanche, mais en attendant, profondément déprimé par l'impossibilité où ma situation me mettait d'élever la voix. Puis j'allais m'asseoir près du bassin de Neptune. Quand on doit passer des heures dans un lieu public, il vaut mieux s'asseoir que tourner en rond et finir par avoir l'air de chercher quelque chose. Il y a toujours des désœuvrés en quête d'une aventure, et un malentendu peut se produire. Si vous ne répondez pas alors à leurs avances, ils peuvent vous en garder rancune. Ils peuvent connaître dans les parages des promeneurs à qui ils n'adressent cependant pas la parole. Ils peuvent revenir à plusieurs vous chercher querelle. Je ne bougeais pas. Je faisais semblant de lire un livre de radiesthésie que j'avais pris au hasard dans le panier d'un bouquiniste de la rue de la paroisse pour me donner une contenance. Je songeais de nouveau à ce fameux processus des recherches policières qui me préoccupait tant. Je voulais toujours en parler, mais personne ne me paraissait avoir assez d'amitié pour moi pour à la fois m'écouter et me rassurer. Mon père me rejoignit enfin. Je n'ai jamais connu personne chez qui la satisfaction du travail accompli fût si provocante. Son esprit était beaucoup plus agile que tout à l'heure. Il se croyait obligé de paraître plein d'idées. Il me parla de son ami Mondanel, un des chefs de la préfecture de police. Il fallait absolument que je le voie, car il fallait que je régularise ma situation, que je travaille, que j'organise ma vie pour longtemps, que je me fasse oublier. Pendant qu'il me reconduisait à la gare, il n'avait plus été question un instant que je restasse à Versailles, je me mis à lui parler du fameux processus des recherches qui m'obsédait tant. Dans mon esprit, le commandant du camp, aussitôt après notre évasion, avait prévenu non pas les diverses gendarmeries avec lesquelles il était ordinairement en contact, mais son chef et hiérarchique, le directeur de tous les camps. C'est qu'il ne s'agissait pas d'une évasion ordinaire. La gravité de ce qui s'était passé était telle que d'autres personnages beaucoup plus importants se substituaient à notre petit commandant. Ils avaient prévenu directement les commandantours de Belgique, de Hollande, de Paris. Celles-ci avaient alerté la sûreté, la préfecture. J'imaginais même l'entrevue. Les fonctionnaires français convoqués étaient reçus avec beaucoup d'égards. Ils étaient si souvent appelés pour des affaires au sujet desquelles, au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord avec leurs collègues allemands, que cette fois, ils étaient bien trop contents de pouvoir enchérir en toute liberté de conscience. Ils feraient leur devoir. On pouvait compter sur eux. Ils allaient donner un témoignage de leur bonne volonté et de leur désir de collaboration. Il existait des choses sur lesquelles, entre peuples civilisés, on ne pouvait que partager la même façon de voir. Le chef de la police française se retirait respectueusement, après avoir acquiescé entièrement à ce qu'on lui demandait, mais sans oublier qu'il était un Français, c'est-à-dire poliment, sans claquer les talons, sans répondre au salut hitlérien par un autre salut hitlérien, laissant deviner dans son regard qu'il gardait sa personnalité et que cette fois, s'il obéissait, c'était parce qu'en une telle circonstance, tout honnête homme ne pouvait qu'obéir. Ensuite, l'affaire n'avait qu'à suivre son cours. Il ne s'agissait plus que de la recherche de l'assassin. Ce dernier tableau que je fis de la conduite des fonctionnaires français ne plut pas à mon père. Il me dit que je n'avais pas le droit de parler ainsi de mes compatriotes. D'ailleurs, j'exagérais. Les Français n'étaient pas comme ça. Je faisais des suppositions gratuites. Puis, me répondant sur le ton que j'avais employé, il ajouta que les polices françaises et Boche avaient autre chose à faire que de courir après nous. Tout ce que j'avais dit ne reposait sur rien. Tout était beaucoup plus simple. Le chef du camp était un brave type qui faisait son service parce qu'il ne pouvait faire autrement. Il avait naturellement été obligé de faire un rapport sur notre évasion. Ce rapport circulait de bureau en bureau. Deux sentinelles avaient été blessées. Je n'avais pas osé dire qu'elles avaient été tuées. Cela nous paraissait très grave. Mais à tous ces officiers supérieurs, à tous ces chefs de police, qu'est-ce que cela leur faisait après tout? On nous recherchait donc, mais sans nous en vouloir particulièrement. Il ne fallait surtout pas nous imaginer que notre tête était mise à prix, que toutes les polices d'Europe s'occupaient de nous. Car c'était en s'abandonnant à de pareils billevesées qu'on finissait par prendre malgré soi un air suspect, craintif, et que finalement on se faisait remarquer et arrêter. Il était même possible qu'on ne nous recherchât plus. D'autres affaires avaient succédé à la nôtre, il fallait bien que les anciennes cédassent la place aux nouvelles.